Bonjour Emmanuel, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Le Nouveau Chemin. On est ensemble jusqu'à 11h. Hey, you know what? Cette émission tente cette semaine de gommer vos mauvais souvenirs de terminale grâce à Géraldine Mosna-Savoie, Marianne Chassor, Pauline Darvet, Tristan Grenassien et Geneviève Méric. Les antisèches sonores et musicales sont assurées cette semaine par Mydia Portis-Guérin à la réalisation, avec à la prise de son deux hommes de chic et de choc, toujours eux, Bernard Legac et Patrice Klein. À 10h50, comme tous les jours, vous retrouverez François Nudelman pour le journal de la philosophie. L'invité de François aujourd'hui sera Ouria Abdelwahed, qui viendra vous parler de son livre paru aux éditions PUF, Figure du féminin en islam. Suite aujourd'hui de notre semaine spéciale Bac Philo, que vous soyez en pleine révision ou que le terme même de baccalauréat vous plonge dans une nostalgie sans fond, cette semaine est pour vous, car elle est aussi et surtout l'occasion de se rappeler que la philosophie ne se réduit pas à l'exercice de la dissertation, mais qu'elle est avant tout une manière de réfléchir au monde, de formuler des questions et de s'accommoder de l'absence de réponse. Et c'est souvent, paradoxalement, en pliant sa pensée à la méthode rigoureuse et précise exigée par la dissertation, que la pensée s'assouplit et se fortifie. Et c'est pour entendre au plus près ce qui distille ce précieux savoir que nous nous sommes rendus auprès des élèves de terminale et de leurs professeurs, dans des lycées de Lannion et de Rennes. Hier, Olivier Verdun s'est demandé s'il suffisait d'expliquer le corps pour comprendre l'esprit. Demain, Philippe Gouette tentera de répondre à la question de savoir si la morale est nécessaire à la vie des hommes en société. Et jeudi, c'est du sujet « Faut-il craindre le regard d'autrui ?» que le professeur Étienne Bonin proposera une analyse. Mais aujourd'hui, c'est à Rennes, au centre médico-pédagogique Beaulieu, et en présence de ses élèves de terminale, que Nathalie Bonin va déplier, analyser et réfléchir au sujet suivant. Qui fait l'histoire ?
Moi, si j'ai 11 en philo, je peux pas avoir moins de 8 en histoire géo, sinon j'ai aucune chance. Par contre, si j'ai au moins 16 en anglais, là, je peux avoir 9 en philo. 9, ça va.
Margot s'occupe.
J'ai fait Hegel, Kant, Marx et Saint-Augustin.
Bonjour Nathalie Monin.
Bonjour.
Donc, vous enseignez la philosophie au lycée Chaptal de Saint-Brieuc, en classe préparatoire TSI, c'est-à-dire technologie et sciences de l'ingénieur, et ainsi qu'en terminale générale.
Oui.
Et nous enregistrons cette émission à Rennes, donc au centre médical et pédagogique de Rennes-Beaulieu, qui nous accueille pour la journée. Alors vous avez choisi de proposer ce sujet qui est susceptible de tomber le jour du bac. C'est un sujet qui est tout à fait un bon candidat pour le jour du bac. Qui fait l'histoire ? Alors ce sujet-là, qui fait l'histoire ? Selon vous, quelle est la difficulté de ce sujet ? Est-ce que ce serait d'essayer de définir l'histoire sans se demander ce qui se cache derrière le pronom « qui » ou le verbe « faire », par exemple ?
Alors, le sujet est à la fois compliqué, mais en même temps très simple, parce qu'il n'y a que trois mots. Alors, j'ai envie de dire, ça simplifie un petit peu le nombre de difficultés. Ceci dit, je ne chercherai pas à d'abord définir les mots. Parce que je remarque que, comme dans l'école qu'on peut faire aussi avec les étudiants, qu'à chaque fois qu'on cherche à définir un mot, on va se tenir à cette définition, comme si la définition ne bougeait pas. Et comme si la réalité sur laquelle on va travailler, c'est-à-dire ici l'histoire, comme si cette réalité était figée. Alors que précisément, sur l'histoire, c'est toute la difficulté du sujet. Alors je chercherai plutôt, je me méfie d'abord toujours des questions simples, et j'essaye de faire comme ce que Platon nous a enseigné, de partir d'un paradigme. C'est-à-dire, je vais me donner un exemple extrêmement simple qui va utiliser le début, qui fait, et voir est-ce que je suis capable d'y répondre facilement. Par exemple, je rentre dans une maison et je dis « qui fait la cuisine ?» Alors je vais dans la cuisine et je regarde, il y a quelqu'un qui est là, et c'est voilà, c'est un tel qui fait la cuisine. J'ai un sujet de l'action. Si je vais là, j'entends des cris, je dis « qui fait des bêtises ?» Alors je vais et je vois, il peut y avoir deux enfants, ou un seul d'ailleurs, à faire des bêtises. À chaque fois, j'ai un sujet de l'action. Donc c'est très simple, le faire, c'est une activité qui produit ou de la cuisine un objet extérieur, ou je fais du sport par exemple, je produis cette activité qui s'appelle le sport. Mais j'ai un sujet qui est clairement identifiable. Dans ce sens-là, c'est très simple. Alors, mon exemple très simple, vous voyez, je fais exactement Platon nous donne une excellente leçon de méthode. Mon sujet est très simple, je vais maintenant l'appliquer à l'histoire pour voir si c'est aussi simple que ça. Qui fait alors l'histoire? Je me dis, ben, je vais me tourner vers l'histoire. Alors déjà, vers où je me tourne? C'est parce que précisément, est-ce que c'est seulement un lieu? Et vous voyez que là, l'histoire, c'est ce qui se déroule. Et donc, j'ai pas un lieu géographique, mais j'ai, à travers un lieu géographique, quelque chose qui se déroule dans tout le temps. Et pas le mien seulement. Parce que moi, j'occupe un tout petit temps infime dans l'histoire. Mais il y a ceux qui sont avant, puis il y a tous ceux qui vont arriver, j'espère, après. Donc, déjà, cet objet histoire est difficilement identifiable. Et alors, chercher le sujet qui est celui qui fait cette action, si l'histoire est une action, c'est encore plus compliqué. Je me trouve devant une pluralité, alors de quoi? D'individus, d'actions, je ne sais pas, parfois de guerres. Qui fait la guerre? Est-ce que ce sont les soldats ou est-ce que ce sont ceux qui ont donné l'ordre de faire la guerre? Ou est-ce que ce sont ceux qui se sont mis en position justement de provoquer un conflit? Vous voyez, aller chercher le véritable responsable. Donc je cible comme ça, j'ai deux difficultés finalement. J'ai la difficulté de définir ce que c'est que la réalité histoire et qui, du coup, vous voyez que les deux questions s'en mêlent, hein, s'entraînent l'une l'autre, et qui, du coup, est le sujet, c'est-à-dire, quand je fais quelque chose, ben, je suis responsable de ce que je fais. Donc à la fois l'auteur, l'acteur, le responsable de l'action.
Alors ce qui est frappant, Nathalie Monin, c'est que vous venez de donner, sans le nommer, un conseil méthodologique extrêmement important, qui est de, face au sujet, essayer de déceler la question qui est posée, ne pas seulement considérer le sujet comme un sujet de dissertation, mais comme une vraie question. Vous êtes partie d'exemple, et c'est seulement à la fin de ce que vous venez de dire que vous avez conceptualisé les choses et posé des questions qui, elles, peuvent paraître plus techniques.
Voilà, je pense que se donner un exemple très simple dans la vie de tous les jours, c'est la première chose. C'est ce que fait toujours Platon. Enfin, c'est vraiment notre maître à tous. C'est vraiment, quand j'ai une question, même qu'elle soit simple, à la limite, se dire, oh, cette question est facile, je vais la prendre. Ou bien, oh là là, cette question est trop difficile, je la prends pas. En fait, on doit être neutre. Le mieux, c'est de n'avoir aucun avis sur la question. Peut-être que c'est même pas de se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai comme auteur? Parce que si j'ai un auteur, ça va déjà me bloquer et je vais fermer la question. Mais c'est d'essayer d'abord de prendre la question, d'affronter la question, de la prendre telle qu'elle se donne et de la prendre sans aucun préjugé et d'essayer de rentrer au niveau le plus bas, le plus primaire de la question pour saisir tout son sens.
Donc parmi les trois sujets proposés le jour de l'épreuve, vous conseillez au candidat de choisir celui pour lequel la réponse vient le moins rapidement. C'est ça, celui où apparemment il se dit « mais là je ne sais pas trop quoi penser ».
Alors je prendrai pas cette responsabilité. Il y a des sujets, tout sujet requiert des connaissances. Donc penser que sur un sujet qui porte par exemple sur la science, je n'ai jamais eu un cours sur la science, j'y connais rien, ou alors j'ai rien compris au cours, penser que ça va me... Voilà, si j'ai pas de connaissances, je prends pas le sujet sur lequel j'ai pas de connaissances. Parce que ça va pas, ça tombe pas du ciel. On apprend à penser à travers des connaissances et on apprend à penser quand on a maîtrisé ses connaissances. Donc, je conseillerais de ne jamais choisir le sujet où le professeur n'aurait pas eu le temps de faire le cours ou alors on n'a pas trop bien compris le cours. Je me méfierais de ces sujets-là. Et donc, c'est pas parce qu'un sujet, je me dis, oh, je le connais trop bien, on l'a fait 10 fois dans l'année, donc, vous voyez, des sujets qui portent sur la condition humaine. On parle de ça tout le temps, la condition humaine. Alors, celui-ci, j'en ai ras-le-bol, je le prends pas. Ben non, ça, ce serait une erreur. Parce que là, vous allez avoir de la matière, et puis vous avez déjà un travail de conceptualisation qui est prêt, un travail de problématisation qui est prêt. Donc, il y a déjà des pistes. Après, c'est de la construction. Après, je pars de ma question, je l'affronte très naïvement et très sincèrement, très honnêtement, sans préjugés, sans idées préétablies. Et une fois que j'ai fait ce travail de débroussaillage du sens de la question, eh bien, je me demande qu'est-ce que j'ai dans ma bibliothèque intérieure pour pouvoir apporter de la nourriture.
C'est ça, donc il faut faire jouer ensemble à la fois une expérience peut-être plus quotidienne ou de l'ordre du vécu qui fait résonner le sujet de manière plus personnelle et en même temps pouvoir mobiliser les connaissances qui viennent nous aider à étayer, à enrichir ce qui peut être que notre simple
opinion. Et les connaissances arrivent après. C'est-à-dire je ne cherche pas d'abord quel auteur j'ai sur cette question, mais les connaissances, elles vont venir toutes seules. Elles vont être mobilisées toutes seules, en fait, parce que j'aurais déjà fait le travail de conceptualisation.
Alors, vous l'avez rapidement esquissé, le travail de conceptualisation. Vous avez parlé de cette autre contrainte qu'il faut affronter quand on analyse un sujet, c'est celle de la problématisation. Or, en l'occurrence, le sujet pose une question. Donc, comment fait-on pour problématiser un sujet qui lui-même déjà pose une question?
Oui. Alors, ça, on ne peut pas commencer une discussion philosophique si on n'a pas un problème. Donc ça, c'est absolument primordial et incontournable. Alors, pour vous expliquer ce que c'est qu'un problème, je vais prendre une autre question. Je vais prendre une question beaucoup plus simple. Si on dit « qu'est-ce que l'homme ?» Ça, c'est une question. Alors, c'est difficile de répondre « qu'est-ce que l'homme ?» Alors, je vais me donner une alternative et je vais problématiser ma question. C'est-à-dire, je vais énoncer une contradiction. Est-ce que l'homme est un être de langage ou est-ce que l'homme est un être de passion? Alors vous allez me dire, ça ne s'oppose pas forcément. Est-ce que l'homme est un être de raison ou bien est-ce que c'est un être de passion? C'est-à-dire, je vais prendre un biais qui va permettre... c'est une entrée, c'est une voie d'entrée dans mon sujet. Et le problème s'énonce comme une alternative. C'est l'énoncé d'une contradiction. Est-ce que c'est ceci ou bien est-ce que c'est cela? Ce qui va m'indiquer déjà comment rentrer ensuite dans ma première et ma deuxième partie. Donc, on vous pose une question, et tant que vous n'avez pas trouvé le problème, tant que vous n'avez pas choisi le problème, c'est-à-dire quelque chose qui va vous-même vous intéresser, en fait, vous n'allez pas réussir à... Parce que je ne peux pas répondre à une question comme ça, c'est beaucoup trop vaste. Alors ici, maintenant, je vais adapter l'exemple de l'homme, je l'adapte à l'histoire. Qui fait l'histoire? Donc, est-ce que l'histoire est faite, j'ai envie de dire, par les hommes, parce que c'est peut-être la première... réponse qui nous vient. Est-ce que l'histoire est faite par les hommes? Alors vous voyez le problème. Les hommes, lequel ou lesquels et qui? Et puis quel sera mon critère pour savoir qui je vais choisir comme celui qui sera l'auteur de l'histoire? Donc est-ce que ce sont les hommes, mais ce sera donc à discuter? Ou bien est-ce que c'est une entité supérieure? Alors, est-ce que c'est Dieu, hein? C'est ce qu'on a répondu. Chez les Grecs disent ce sont les dieux. On a juste un destin à suivre. Ce sont les dieux qui font l'histoire. Est-ce que c'est la nature? Vous avez cité Kant. Donc, est-ce que la nature poursuit un dessein à travers les passions des hommes? Ou bien est-ce que c'est l'esprit, comme chez Hegel? Enfin, voilà. Est-ce que c'est quelque chose d'extérieur aux hommes qui les conduit, qui les utilise? Et alors les hommes seraient en fait des jouets. Donc à partir de... Alors ça c'est mon problème. Et vous voyez que ça porte sur la nature de l'histoire. Parce qu'en décidant, comme on l'a dit tout à l'heure, en essayant de savoir qui est l'acteur de l'histoire, eh bien je vais aussi m'intéresser, il va falloir aussi que je travaille sur l'objet histoire. C'est-à-dire l'histoire est-elle le résultat, le produit des actions des hommes? Ou bien l'histoire est-elle décidée par une entité supérieure, une intelligence supérieure, et est-elle un moyen qui va utiliser les actions des hommes pour réaliser un plan qui nous reste caché? Bon, ça c'est l'idée de Kant et d'autres, et de Hegel.
Alors, est-ce que vous pouvez citer ou énoncer en une phrase peut-être la problématique qui est la vôtre et à partir de laquelle vous allez pouvoir commencer à construire un plan et peut-être commencer à rédiger la dissertation, parce que je vous rappelle que nous avons 50 minutes au lieu des 4 heures imparties le jour de l'épreuve pour faire cette dissertation, Nathalie Monod.
Ouais, on a juste le temps de faire tout le travail préliminaire et le plan. Alors, on pourrait énoncer de la manière suivante la problématique. Chacun amène-t-il sa petite pierre dans le grand livre de l'histoire de l'humanité? Donc si chacun amène sa petite pierre, ça signifie que tous les hommes contribuent à faire l'histoire, donc avec la question de savoir lesquels. Ou bien, autre alternative, l'histoire est-elle une sorte de force qui dépasse nos êtres singuliers et particuliers en les conduisant vers une destinée qui nous échapperait? Et donc j'ai posé cette alternative. Et puis, autre conseil méthodologique, qui peut être une indication, c'est quand j'ai pas trop de pistes, ou même, c'est vraiment une question aussi importante, c'est de s'interroger sur les raisons de poser cette question. C'est-à-dire pourquoi on pose cette question. Qu'est-ce qu'elle a de si intéressant pour que, et donc de non évident, parce qu'on ne pose pas des questions sur les choses qui sont évidentes. Donc, vous voyez, c'est pour ça que la philosophie nous fait réfléchir sur tout un tas de choses auxquelles on n'avait pas pensé, parce qu'elle nous invite à ouvrir les yeux sur ce qui nous est tellement évident qu'on ne l'interroge pas. Alors souvent on dit la philosophie pose des questions que personne ne pose. Ben oui, c'est le regard de l'enfant avec une seconde naïveté, une naïveté apprise, éduquée, mais c'est le regard de l'enfant sur des choses qui ne nous interrogent pas, qui, parce qu'elles nous sont évidentes. Et là, c'est vrai, hein, quand on est en train de vivre dans les actions du quotidien, on ne se demande pas, tiens, ce matin, qui fait l'histoire ? Non, on est en train de vivre sa propre histoire, peut-être dans une grande histoire. Et donc, s'interroger pour savoir pourquoi est-ce qu'on nous pose cette question, c'est déjà soulever le voile que c'est pas si évident que ça, et que donc la réponse va être à discuter.
Alors, je n'ai presque pas envie de vous poser la question de savoir quel est votre plan, tellement vous parlez bien de ce qu'est la philosophie, la dissertation de philosophie. Mais malheureusement, bon, c'est quand même aussi le but de l'exercice, puisque c'est un exercice, même si vous en montrez tout l'intérêt qui dépasse largement le cadre scolaire, hein, de la philosophie. Quand on étudie qu'une année en terminale, on oublie que ce n'est pas juste une discipline parmi tant d'autres, et que, comme vous le dites si bien, c'est une manière de réfléchir et c'est un rapport au monde, en réalité, hein, qui nous fait nous poser certaines questions à partir de ce qui peut paraître évident. Mais quand même, donc, à partir de ce que vous venez de dire, est-ce que déjà se dessine un plan dans votre tête ? Est-ce que ce plan doit être nécessairement en trois parties, comme on le dit souvent, thèse, antithèse, synthèse, ou pas forcément ?
Alors, thèse, antithèse, synthèse, non. Parce que si vous prenez stricto sensu que c'est qu'une thèse, alors on va dire je vais l'appeler A, si vous prenez l'antithèse, je vais dire non A, alors déjà, ma deuxième partie va juste être la négation de la première, sans proposer une solution autre. Et alors la synthèse du A et du non A, à votre avis, qu'est-ce que ça va être ? Ça fait zéro, je crois. Donc on n'a plus rien à dire dans la synthèse. Alors plutôt que de proposer thèse, antithèse, synthèse, je proposerai une première, un premier questionnement sur notre question. Et donc ici, justement, je m'interrogerai sur les raisons de poser une telle question. Si on pose la question, c'est que la réponse n'est pas évidente et que donc l'histoire se présente d'une manière assez chaotique, assez insensée, assez absurde pour qu'on pose la question. Donc, dans un premier temps, j'essaierai d'aller dans cette voie-là, de savoir de comment se présente l'histoire et comment se présente ce qui se pose à nous, devant nous, comme ce qu'on appelle l'histoire. Ensuite, dans un deuxième moment, eh bien, c'est ce que j'aurais amené. Hein, je pose le plan comme ça de manière un peu brutale, mais il faudra travailler les transitions après. J'aurais montré que cette question est elle-même historique. C'est-à-dire que ce n'est pas une question, par exemple, que les Grecs posaient, parce que justement, elle aurait été évidente. Ce n'est pas une question non plus qu'on pouvait poser, que pouvaient poser les philosophes du Moyen-Âge, parce que de toute façon, c'était évident, c'était Dieu qui faisait l'histoire. Donc, à quel moment cette question peut-elle apparaître ? Et comment y a-t-on répondu ? Il se trouve que cette question va apparaître, c'est difficile hein, de vous dire à peu près une date précise, mais disons qu'elle me semble liée à l'émergence justement d'une conscience de l'histoire. Et ça apparaît au XVIIIe siècle, c'est-à-dire au moment où justement on va arriver à la Révolution. C'est des gens comme Diderot déjà, comme les philosophes des Lumières, qui se posent la question d'un progrès, qui disent tout ça doit bien amener à quelque chose, et peut-être qu'on a notre part, nous, le petit peuple, hein, les petites gens, à amener, et peut-être qu'on peut agir sur l'histoire. Alors évidemment, la révolution, c'est le retournement complet, puisque ceux dont on croyait jusque-là, les grands, qu'ils faisaient l'histoire, eh bien, vont être mis à mal hein, par le peuple. Et donc là, il y a une conscience du peuple qui émerge, qu'il est capable, lui, de provoquer des actions historiques et donc d'être l'agent, l'auteur de sa propre histoire.
Donc dans cette seconde partie, juste Nathalie Monin, vous proposez une réflexion historique sur ce sujet qui porte sur l'histoire. Est-ce que c'est un passage obligé ou est-ce qu'on aurait pu concevoir que les trois parties ne prennent pas en compte la visée historique du sujet sur l'histoire ? Là, c'est très ancré dans un siècle particulier, dans un moment donné.
Oui, alors je pense que ça, c'est une thèse que je pose. Certainement qu'on demanderait à un autre prof de philo, il vous ferait un autre plan. L'important, c'est qu'il y aurait autant d'individus, autant de plans différents peut-être. L'important, c'est que le trajet qu'on propose soit cohérent. Alors, est-ce qu'on aurait pu penser autrement ? Oui, probablement. Mais je pose que toute question sur l'histoire est elle-même historique. Parce que l'histoire, c'est quand même un objet très particulier de la pensée. c'est un objet qui apparaît justement au XVIIIe siècle, pour des raisons historiques. Et c'est tout le XIXe siècle qui va conceptualiser, c'est-à-dire, oui, on sait qu'on est dans l'histoire, on a peut-être une petite conscience qui commence à émerger du fait qu'on est un être avec une dimension historique, mais tout le travail conceptuel sera fait par des gens comme Kant, comme Hegel, et ensuite comme Marx, sera fait au XIXe siècle. C'est-à-dire, entre le vécu historique et ensuite la conceptualisation, le fait de prendre en compte, de prendre conscience de ce que cela signifie d'être un être historique, eh bien, il y a quand même un petit laps de temps. Donc, je pense que tous les sujets sur l'histoire, comme un cours sur l'histoire, c'est difficile de faire l'impasse sur cette conscience historique qui émerge pour des raisons historiques, de même que ce serait difficile de faire l'impasse sur ce qu'on appelle l'historiographie, c'est-à-dire toutes les réflexions qui sont sur les méthodes qu'on utilise pour écrire l'histoire. Parce qu'entre Thucydide, entre Fénelon, Bossuet, et puis aujourd'hui Marc Ferraud, on n'écrit pas l'histoire de la même manière. Pourquoi ? Bah pour des raisons historiques. Et donc on est bien obligé de prendre en compte le sujet de la réflexion, c'est-à-dire la conscience elle-même qui est en train d'écrire sur l'histoire, puisque cette conscience est elle-même le produit d'une histoire. Et prendre conscience de là d'où on vient, de sa propre dimension historique, me semble incontournable pour pouvoir penser de manière, alors je ne vais pas dire objective, mais je vais dire de manière d'une haute subjectivité, je reprends les termes de Ricoeur hein, dans le Histoire et Vérité, de penser avec une haute subjectivité la notion même d'histoire. J'invente rien, je prends les idées de Ricoeur. Donc c'est pour ça que dans cette deuxième partie, je m'interrogerai sur la dimension historique de la conscience historique, ce qui fait que, du coup, peut-être mon intérêt va se porter en se disant « Mais comment se fait-il au XVIIIe, XIXe siècle, et puis même avant, qu'on n'ait pas répondu ce qu'on répond nous aujourd'hui ?» Qu'aujourd'hui on vous pose la question, on dit ce sont les hommes, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais enfin on dit c'est quand même les hommes qui font l'histoire. Avant on a dit ce sont les dieux, c'est Dieu, c'est la nature, c'est l'esprit pour Hegel. Pourquoi on ne répond pas tout de suite ce sont les hommes ? Pourquoi c'est si difficile de se dire que ce sont les hommes qui font l'histoire ? Et ça, c'est l'objet de la troisième partie. Et c'est là que, alors là, on utilise la bibliothèque interne qu'on a, et là je ne vois pas d'autres auteurs majeurs sur ce sujet que Sartre dans un ouvrage qui s'appelle La critique de la raison dialectique, où justement il fait tout le travail de fondation de la philosophie de l'histoire de Marx. Donc c'est très intéressant, c'est illisible. Hein.
Voilà, ce que j'aime dire, c'est quand même un ouvrage qui est très difficile à lire pour oui. des élèves de terminale, mais même pour des étudiants qui auraient étudié la philosophie pendant de longues années, c'est difficile à lire. Et pourtant, on y trouve, vous allez en parler, on y trouve des exemples et des réflexions qui sont tout à fait mobilisables, y compris le jour du bac.
Oui. Alors, l'écriture de Sartre, particulièrement dans cet ouvrage, est difficile. Donc, c'est difficile aussi de faire travailler les élèves sur ces textes, mais c'est pourtant absolument très très intéressant, parce que alors si c'est si difficile, c'est parce que peut-être vous vous en rappelez, il avait écrit ce texte très très rapidement sous café plus corridrane plus bon un peu de whisky hein, de temps en temps, donc ça n'arrangeait pas le style, on va dire, et vous avez des phrases extrêmement longues, mais je comprends pas seulement pour des raisons extérieures hein, la corridrane, mais je comprends pourquoi c'est si difficile de décrire la réalité historique, parce que précisément elle est éminemment complexe. Et c'est la raison aussi, la complexité explique le style, mais aussi c'est la raison pour laquelle on n'a pas, il explique, on peut comprendre pourquoi il n'a pas répondu tout de suite que ce sont les hommes. C'est-à-dire que ça n'est pas immédiatement visible. Parce que les hommes ont bien l'impression de commencer des actions dans le monde, mais ça finit rarement comme ils ont voulu que ça finisse. Donc à chaque fois que j'engage une action dans le monde, finalement je ne sais pas comment ça va finir. Vous savez, il y a le film Les Visiteurs. Oui, vous vous rappelez tous du début des Visiteurs. Il y en a un qui tire une flèche là, et donc on voit le trajet de la flèche. Parce que cet épisode revient au début et à la fin du film. Et justement, à la fin, il y a quelqu'un qui dévie la flèche. Et donc, finalement, quand je tire une flèche, je ne sais jamais si elle va atteindre son but. Alors là, c'est un jeu, évidemment, sur les visiteurs. Et puis, à la fin, on fait en sorte qu'elle n'atteigne pas son but, ce qui va changer toute l'histoire. Ben oui, c'est un petit détail, est-ce que la flèche atteint ou n'atteint pas le but, qui va faire qu'on a tel scénario ou qu'on a tel autre scénario. Bon, c'est un film pas très philosophique, je vous l'accorde.
Mais est-ce qu'on pourrait le citer justement? Non, mais c'est intéressant que vous l'évoquiez, puisque là, c'est l'exemple qui vous est venu en tête quand vous avez voulu illustrer cette réflexion sur l'histoire. Est-ce qu'on peut, dans une même partie, d'un côté, citer Sartre et peut-être mobiliser les connaissances qu'on a de ce texte-là, si on les a, hein, de la critique de la raison dialectique, et appuyer cette réflexion-là en citant, pour exemple, un film, ça, oui, mais Les Visiteurs en particulier, qui est une comédie sur la, qu'on peut mépriser en pensant que c'est pas un objet digne de réflexion philosophique.
Alors,
où est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça?
Je pense qu'on peut parler de tout, parce que la philosophie parle de tout. Tout est objet de réflexion, donc il n'y a pas de raison de ne pas réfléchir parce que le film est à visée commerciale et non philosophique, mais tout sera dans la manière d'en parler. Et tout sera la manière dont vous serez capable de monopoliser un savoir, une anecdote, pour en tirer quelque chose. Donc c'est plutôt là que ça se passe. C'est pas dans le... J'ai rien contre l'utilisation de tel ou tel film, de telle ou telle œuvre. Non, mais c'est plutôt dans la manière, dans la capacité qu'on a de savoir en tirer quelque chose. C'est plutôt ça.
Élève la bêlure. Vous êtes premier en histoire de France. Eh bien, parlez-moi de Vercingétorix. Quelle fut sa vie, sa mort, sa naissance? Répondez-moi bien et vous aurez 10. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. Élève Poudaran.
Présent.
Vous êtes le dernier, ça me rend morose. Je vous vois dans la classe, tout là-bas, dans le fond. En philosophie, savez-vous quelque chose? Répondez-moi oui, répondez-moi non. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur.
Alors nous ne sommes pas au lycée Papillon, comme le chante Georgius, mais au centre médical et pédagogique de Rennes-Beaulieu, qui nous accueille aujourd'hui pour enregistrer ces émissions. Et cette première émission en compagnie de Nathalie Monin, donc, qui enseigne la philosophie au lycée Chaptal de Saint-Brieuc, et qui planche sur le sujet suivant, qui fait l'histoire? Alors Nathalie Monin, on vous a entendu déblayer le sujet, proposer des analyses, donner des conseils méthodologiques sur comment analyser un sujet justement, comment s'y prend-on? Là, l'heure tourne plus que jamais, même si nous n'avons pas les 4 heures, il nous reste quand même à peu près 25 minutes pour rédiger le plan. Alors, vous avez énoncé votre plan. Première partie, vous avez dit, hein, dans la première partie, vous allez adopter la position de celui qui pense que l'histoire ne fait pas sens, que l'histoire est un chaos que nous ne pouvons pas restituer et dans lequel l'homme ne sait pas trop quel rôle jouer. Alors, comment commencez-vous cette première partie?
Alors, je commencerai par une description. Donc, comment nous apparaît l'histoire? Elle apparaît chaotique. Elle apparaît absurde, pas de sens. On fait des projets souvent pour que tout aille bien. Chacun espère vivre bien et vivre en paix. Et on n'arrête pas d'être confronté aux guerres sans arrêt. Alors je pense en particulier à toute la période des Médicis à Florence. Vous voyez, toutes les guerres au XIVe, XVe siècle dont a parlé abondamment Machiavel dans Le Prince. Et il n'arrête pas entre les Médicis et puis les autres, entre Venise, Florence, Milan, il n'arrête pas de se faire la guerre. Alors quel sens tout cela a-t-il? Et vous voyez que en posant la question du sens, ça elle est proprement humaine. C'est-à-dire que à chaque fois que l'homme regarde le monde, il en cherche le sens. J'ai envie de dire, ça fait partie de notre structure intellectuelle. Nous sommes faits de cette manière-là, que quand, par exemple, quand il nous arrive quelque chose, eh bien, on se demande et pourquoi moi et quel sens ça a. Donc on cherche la raison des choses. La raison des choses, vous voyez, faites attention, c'est pas la même chose que la cause d'un événement. La cause, c'est ce que je peux cibler comme étant juste antérieur. Mais la raison, elle n'est pas visible, elle n'est pas forcément visible. Et là, ça se présente de manière tellement chaotique et tellement désordonnée que ben, la première réponse pour satisfaire notre exigence de sens, c'est de dire ce sont les dieux qui doivent faire l'histoire. Ce sont eux qui doivent commanditer cette destinée des hommes. Alors,
est-ce que là, vous mobilisez un auteur en particulier ou est-ce que l'idée en tant que telle est suffisamment forte pour ne pas avoir besoin de l'étayer avec une référence précise?
Alors, je mobiliserai dans ce que je peux avoir, soit Machiavel. Il y a beaucoup d'auteurs, en fait, qui commencent par décrire le chaos qu'est l'histoire. On le trouve chez Rousseau, on le trouve chez Machiavel, on le trouve chez Kant, on le trouve chez Hegel. Je pense que ça, c'est quelque chose. Je dis pas que c'est universel, je vais pas tout vérifier. Mais disons que c'est vraiment la première pensée quand on essaye de prendre une position de surplomb pour essayer de trouver une cohérence dans tout cela, et on n'en trouve pas. On n'en trouve pas. D'ailleurs, je pense que les Grecs n'en cherchaient pas. Et c'est là que je vais faire ma transition pour aller vers la deuxième partie. Les Grecs n'en cherchaient pas, parce que si on regarde comment Thucydide écrit la guerre du Péloponnèse, à la fin de la guerre du Péloponnèse, il n'en tire pas de leçon, où il ne se dit pas « toute cette guerre nous a servi, nous a donné une leçon, donc maintenant, voilà, on va pouvoir faire autre chose, on va pouvoir construire autre chose à partir de là ». Et donc, on peut comprendre toute la guerre que l'on a faite avant en vue de ce qui se dessine après. Parce que ça, se dire, donner du sens à ce qui s'est passé avant pour pouvoir comprendre ce qui va se passer après, ça demande déjà une constitution temporelle, c'est-à-dire ça demande déjà un sens de l'histoire et ça requiert déjà la notion de progrès. Or, la notion de progrès, comme on l'a dit tout à l'heure, n'apparaît qu'au XVIIIe siècle. Alors, à quoi ça sert à Thucydide d'écrire la guerre du Péloponnèse? Qu'est-ce qu'il va en faire? Ça nous apprend quelque chose sur la brutalité des hommes, sur les passions des hommes, sur leur capacité à raisonner, à faire des discours. Ça nous apprend quelque chose sur la nature de l'homme. Et on retrouve exactement les mêmes raisonnements chez Machiavel, sur la manière dont il voit l'histoire. À quoi cela sert-il de faire de l'histoire? C'est pas du tout la même chose que nous, hein, que nous dirions. C'est pas à connaître son passé, parce que c'est important de savoir d'où l'on vient pour savoir comment on va aller vers le futur. Mais ça sert à connaître la nature de l'homme. Alors vous voyez, quand on dit ça, ça sert à connaître la nature de l'homme, bah, ça suppose que ça se répète. On est dans une idée répétitive de l'histoire. Puisque si je comprends bien pourquoi cette guerre a eu lieu à cause des passions, donc j'apprends quelque chose sur la psychologie de l'homme, et ça va m'aider à déchiffrer les hommes de mon temps. Donc en fait, on fait de l'histoire comme on ferait de la psychologie, alors entre guillemets, hein, parce que je fais pas d'atteinte aux psychologues, hein, mais c'est voilà, ça nous apprend quelque chose sur la nature de l'homme. Alors on n'est plus du tout aujourd'hui dans cette idée-là, et
Mais en fait, ce que vous dites, c'est que la notion même d'histoire est une notion qui est moderne, qui a été inventée il y a assez peu de temps et que avant même que l'on pense à l'histoire comme une discipline, hein, c'était le sens de la chanson qu'on a diffusée tout à l'heure, hein, au lycée Papillon, on enseigne l'histoire, avant même que ce concept-là soit inventé, que cette notion-là soit inventée, on avait un rapport au temps et aux événements qui étaient complètement différents. Donc c'est normal que la conception change, elle évolue de manière historique puisque la notion même d'histoire est récente.
Voilà. C'est ce qu'on appelle la conscience historique.
C'est-à-dire qui est donc l'objet de votre seconde partie.
Voilà, c'est l'objet de la seconde partie. Et dans cette seconde partie, j'essaye de montrer le tournant qui va se passer au XVIIIe siècle. On est obligé de prendre en compte la notion de progrès pour montrer comment, au XIXe siècle, on va conceptualiser cette notion de progrès, d'un sens de l'histoire. Et vous voyez ici la proximité, parce qu'on a quand même deux questions de bac. Qui fait l'histoire et l'histoire a-t-elle un sens ? Alors, il faudrait faire attention de ne pas faire un hors-sujet à ce moment-là et de distinguer les deux types de questions, parce que qui fait l'histoire nous interroge bien sur le sujet, hein, responsable de l'action, tandis que l'histoire a-t-elle un sens ? Il faudrait, ici, enfin, c'est une autre question, hein, mais il faudrait s'interroger sur la signification et la direction de l'histoire, ce qui requiert aussi une conscience historique, puisque l'histoire a-t-elle un sens est une question du XIXe siècle, hein, que qu'on ne posait pas, ou du XVIIIe, mais en tout cas qu'on ne posait certainement pas chez les Grecs et au Moyen-Âge. Alors j'essaierai de montrer dans cette deuxième partie au moins deux réponses différentes qu'on apporte au XIXe siècle. Celle de Kant, qui, comme ça, nous dit, enfin très rapidement, hein, pour résumer très grossièrement, nous dit c'est la nature, hein, elle a un dessein caché, le dessein caché de la nature, et donc c'est la nature qui réalise, à travers l'insociable sociabilité des hommes, qui réalise son plan. Et puis ensuite, on a Hegel.
Alors là, juste sur Kant, je le signale quand même, la référence, hein, implicite de Kant, c'est ce texte qui s'appelle « Idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique », qui est constitué de plusieurs propositions. Chaque proposition émet une certaine thèse vis-à-vis de l'histoire, et donc cette fameuse thèse de l'insociable sociabilité, je renvoie les élèves à ce texte-là parce qu'il est très utile et facilement mobilisable pour traiter beaucoup de sujets le jour du bac.
Alors le deuxième auteur, c'est Hegel, donc là c'est difficile de faire l'impasse sur Hegel, qui nous dit que c'est l'esprit. Alors l'esprit, qu'est-ce que c'est ? C'est pour ne pas dire Dieu, hein. Il dit l'esprit, la raison, avec des majuscules à chaque fois, et qui va utiliser les passions des hommes, c'est ce qu'il appelle la ruse de cette raison, de cet esprit, qui utilise les passions des hommes, donc il cite souvent Napoléon, pour pouvoir réaliser un maximum de liberté dans le monde. Alors voilà, vous allez vous dire, bon, on a deux auteurs, on a deux réponses différentes, vraiment, ils s'en disent ça.
Quand on parlait de la ruse de la nature, Hegel parle de la ruse de la raison.
Alors il y a quand même, voilà, vous avez raison, il y a quand même quelque chose qui est similaire. En tout cas, dans les deux cas, on ne répond pas, ce sont les hommes. Et pourquoi ? Et pourquoi c'est si difficile de dire que ce sont les hommes ? Pourquoi est-ce qu'on va inventer une entité extérieure aux hommes qui les manipulerait et qui les dédouanerait, en fait, qui les déresponsabiliserait de leur histoire ? Alors j'en arrive à la troisième partie.
Je vous vois pressée d'arriver à cette troisième partie. Vous allez pouvoir nous parler de la critique de la raison dialectique, Nathalie Monin.
Alors, ce texte difficile présente un certain nombre d'exemples. Hein, parce que...
Alors, juste comment intitulez-vous cette partie ? Quelle est l'idée principale de
Alors,
cette troisième partie ?
C'est la nature même de l'histoire qui rend difficile de penser les hommes comme sujets, hein, comme acteurs de l'histoire. Et c'est là, vous voyez, que je retrouve la question qu'on avait posée. On a dit la question nous interroge sur l'auteur, hein, le sujet, le qui, mais aussi sur la nature de l'histoire, sur la réalité de ce drôle d'objet qu'est l'histoire. Et c'est dans la troisième partie que je vais faire la jonction entre ces deux questions préliminaires. Alors, pour essayer de comprendre ce qu'est la nature même de l'histoire, je vais prendre une première image que prend Sartre dans le deuxième tome de la critique de la raison dialectique. Et il essaye de nous faire comprendre que nous sommes l'histoire et que nous sommes dans l'histoire. Et c'est pour ça que nous ne la voyons pas, en quelque sorte, et que l'objet n'est pas à distance. Nous ne sommes pas à distance de cette histoire que pourtant nous faisons et que nous subissons en même temps. Et c'est ça qui est difficile à saisir. Nous subissons et nous faisons. Alors, vous allez me dire, c'est antinomique. Bah oui, bah c'est ça la réalité de l'histoire. C'est justement antinomique. Alors, il prend l'exemple d'un Martien. Un Martien qui serait d'une science supérieure à la nôtre, extérieure donc au monde, et puis qui vient, qui découvre la Terre, qui nous regarde, et qui dit « Oh là là, les pauvres, qu'est-ce qu'ils sont bêtes, ceux-là, il leur manque ça comme faculté, ils n'arrêtent pas de se faire la guerre. » Et en plus, ils ne voient pas, il y a une catastrophe qui va arriver, une catastrophe mondiale, qui va détruire la planète, et ils sont en train de s'embêter pour des petites choses, parce que vous voyez, ils se battent, ils se font la guerre, là, il y a un ruisseau, est-ce que ce ruisseau appartient à ce pays-là ou à l'autre, ils se font la guerre pour ça, parce que l'eau, c'est important pour eux. Alors, le Martien se dit « Les pauvres, tout ce qui leur manque. » comme capacité de comprendre que de toute façon c'est ridicule leur petite guerre puisque de toute façon tout va terminer. Alors est-ce que ce Martien a la possibilité, a la capacité de prévoir ce qui va nous arriver ? Il voit que la catastrophe va arriver parce que peut-être il a des connaissances géologiques sur la Terre que nous n'avons pas. Il voit ce qui va arriver, mais est-ce que avec toutes les données qu'il possède sur la Terre, il possède par exemple notre structure du cerveau, il voit qu'il manque telle chose chimique, hein, dit Sartre, pour être parfaitement intelligent. Et il voit que nous sommes toujours en guerre. Est-ce que, avec cela, il a la capacité de prévoir à 100% cette catastrophe et de dire les pauvres, ils vont pas s'en sortir ? Et Sartre répond, ben non. Non, parce que précisément, il a un savoir supérieur au nôtre, mais ce savoir est extérieur à l'humanité. Et ce qu'il ne connaît pas, c'est ce que nous connaissons en intériorité. Et nous vivons de l'intérieur nos problèmes humains. Alors effectivement, nous sommes toujours soumis à l'urgence. L'urgence, c'est de savoir à qui appartient ce fleuve, à tel pays ou à tel autre. Il faut absolument régler ça en urgence, donc on va se faire la guerre. Alors ça peut paraître d'un point de vue supérieur, c'est-à-dire non humain, j'ai pas dit inhumain, mais j'ai dit non humain, ça peut paraître ridicule, mais de notre point de vue à l'intérieur, c'est fondamental pour nous, à ce moment-là. Et personne ne peut dire, parce que ce qui manque à ce Martien, parce qu'il est extérieur à notre histoire, personne ne peut dire quelles émotions cela nous fait de faire la guerre, est-ce que nous n'allons pas en apprendre quelque chose, et cela, nous ne pouvons pas le prévoir.
Donc avec cet exemple du Martien que vous empruntez à Sartre dans la critique de la raison dialectique, vous arrivez ici à une distinction qui est très importante au sein de ce sujet, qui est la distinction entre une histoire qui serait d'ordre objectif et une histoire qui serait d'ordre subjectif.
Voilà. Et ce qu'il cherche à montrer, c'est que à la fois, pour comprendre l'histoire, nous devons lui être extérieurs, que cela nous est impossible. Ça contredit la phrase de Fénelon qui disait « Le bon historien n'est d'aucun temps ni d'aucun lieu ». Donc Fénelon avait cette idée qu'il faut, pour écrire l'histoire, lui être extérieur. Mais Sartre nous dit, mais c'est impossible. Je ne peux pas être, c'est pas parce que je vais décréter que je suis historien, donc que je suis objectif. Ça, c'est toute l'histoire du 19e, les historiens du 19e avec von Ranke, qui écrit une méthode très objective de l'histoire. Et donc, c'est impossible puisque je suis moi-même le produit de ma propre histoire. Donc, je vis mon époque, mon temps, j'en suis le produit, et je vis ça de l'intérieur. Et donc, bien sûr qu'il faudrait, ce serait l'idéal, mais il nous montre que non avec le Martien, puisqu'il ne nous comprendrait pas. Ce serait l'idéal d'avoir un point de vue extérieur. Ce point de vue est impossible. De toute façon, finalement, l'histoire ne se comprend que d'un point de vue intérieur. Et la réalité de l'histoire, c'est ça l'antinomie. Nous la faisons et nous la subissons, parce que à la fois, nous la vivons en extériorité et en intériorité. C'est ce qu'il appelle une structure d'enveloppement. Mais ça, c'est les termes un peu compliqués, mais ça signifie que nous sommes dans l'histoire sans y être totalement. On pourrait peut-être raccrocher à cette idée que la conscience, c'est toujours une distance à la chose dont on a conscience, et ce qui fait que nous pouvons à la fois voir ce qu'est la nature même de l'histoire, ce qu'il fait, et que nous pouvons aussi nous illusionner en pensant que nous sommes complètement extérieurs à cette histoire. C'est, d'une certaine manière, c'est ce que auraient fait les penseurs du XIXe siècle. Ils seraient restés à cette distance en pensant que cette distance était suffisante et qu'on pouvait avoir un regard totalement extérieur à l'histoire.
Alors, est-ce que ça veut dire pour autant que l'homme, à partir du moment où l'histoire dont il parle est en réalité une histoire intérieure, qu'il n'a pas le point de vue, la distance nécessaire pour mesurer ce qu'il se passe dans l'histoire, disons, objective, est-ce que ça veut dire que l'homme doit renoncer à toute entreprise, à toute lecture de l'histoire et analyse de l'histoire avec un grand H ?
Alors non, parce que sinon il n'aurait pas écrit 2 tomes de la critique de la raison dialectique pour comprendre ce que c'est qu'une action historique. Et alors, pour essayer de nous faire comprendre cela, il rentre dans ce que c'est que la praxis. Il emprunte le mot, ça vient d'Aristote, mais il reprend ce mot à Marx. Nous, quand nous faisons une action dans le monde, c'est ce qu'on disait avec la flèche tout à l'heure, on commence une action, d'abord je la fais avec les autres autour de moi, je la fais en fonction des autres en face de moi, et compte tenu de ce que je suis, c'est-à-dire compte tenu de mon propre passé, où j'ai pas vécu toute seule, mais il y avait aussi tout un tas d'individus qui m'accompagnaient. Et tout cela fait mon histoire. Et donc mon histoire fait partie de l'histoire des autres. Vous voyez, fait partie, mais je fais pas des ensembles, ça s'entrecroise et ça se mêle. Alors pour comprendre cela, il utilise un deuxième exemple, qui est l'exemple du match de foot.
Alors après le Martien, le match de foot, je vous propose d'écouter le texte tout de suite.
L'action est un irréductible. On ne peut la comprendre si l'on ne connaît les règles du jeu, c'est-à-dire l'organisation du groupe à partir de son objectif. Mais on ne peut en aucun cas la ramener à ses règles, ni même la comprendre à partir d'elle si l'on ne peut voir à la fois l'ensemble du terrain. Ainsi, le caractère de cet acte particulier est contradictoire. En effet, c'est en lui-même un acte individuel complet. Il y a but partiel, faire une passe, appréciation de la situation en développement à partir de l'avenir, calcul des chances et décisions qui peut être modifiée par de nouveaux développements, qui peut être manqué ou réussi, et que sa réussite définit elle-même comme processus dialectique qui se suffit. Ou, en d'autres mots, si nous prenons pour acquis que cet individu se proposait cet objectif, faire une passe à celui de ses coéquipiers qu'il juge le mieux placé pour en faire bénéficier le groupe entier, l'acte, comme praxis constituante, irréductible à la fonction, offre une entière intelligibilité. Mais l'impossibilité, justement, de nous arrêter à cet objectif partiel nous est révélée dans l'expérience par le fait que la réorganisation permanente du groupe se poursuit, selon des règles générales et des exigences particulières de la situation, et qu'elle absorbe en elle chaque moment particulier qui la conditionne. Ainsi, le sens de l'entreprise particulière, même si en tant que telle elle est réussie, se trouve dans son utilisation ailleurs par d'autres entreprises, d'autres coéquipiers. Il faudrait même dire que cette activité passée aura sa justification pratique dans le futur. Seule la trouée, l'essai, le but peut-être, justifieront définitivement le coup d'audace qui a fait décider de telle tactique individuelle à tel moment.
Hey, There's nothing nature couldn't teach about the rising of the wrist. Socrates himself was permanently pissed. John Stuart Mill of his own free will on hot punch, and he was particularly ill. Later they say he could stick it away. Half a grain of whiskey every day. Aristotle was a banger for the bottle. Hobbes was fond of his dram. And Rennie Descartes was a drunken fart. I drink, therefore I am. Yes, Socrates himself is particularly missed. A lovely little thing about a bugger when he's pissed.
Nathalie Monin, est-ce que vous connaissez cette chanson des Monty Python?
Non, je l'avais
qui donne à entendre des philosophes Kant et Hegel qui se taclent mutuellement et Descartes qui a trop bu. Et donc c'est une chanson qui dure une minute, qui est vraiment délicieuse. Et je renvoie les élèves à la... On peut trouver la vidéo en ligne. Alors c'est en anglais évidemment, mais c'est quand même... L'idée était assez amusante de voir ces philosophes qui jouent ensemble une même partie de foot et qui renvoient donc au texte qu'on a entendu juste avant, un extrait de la critique de la raison dialectique, où l'on en lit Sartre prendre comme exemple pour comprendre l'intelligibilité de l'histoire un match de foot.
Voilà. Alors, je reprends, parce que le texte, c'est vrai, est difficile. L'idée, c'est de dire que dans un match de foot, tout le monde sait ce que c'est. On voit bien qu'effectivement, aucun joueur ne joue tout seul, ne joue individuel. Ça arrive au départ, au début. Mais chaque joueur doit prendre en compte la totalité. Ils sont 22, je crois, hein, c'est ça, sur un terrain de foot. Donc, chaque joueur doit prendre en compte la totalité des 21 autre joueur, y compris le terrain, le climat, si le terrain est glissant ou pas. Et donc à chaque fois, ça se remodèle. Et vous voyez, si on compare le match de foot à l'action historique, alors par exemple, on pourrait prendre la Bastille, eh bien un joueur ne va décider de la passe qu'il va faire qu'en fonction du positionnement des autres. Donc qu'est-ce qui décide de mon action historique ? C'est pas du tout ce qui s'est passé avant moi, c'est la position des autres en face de moi. On le voit ici, la métaphore spatiale nous aide à comprendre que c'est la même chose finalement, mais beaucoup de manière beaucoup moins visible dans l'espace et dans le temps, parce que c'est étalé dans le temps. Alors le troisième exemple qu'il prend et qui est une adaptation, enfin qui est de ce match de foot, c'est la prise de la Bastille. Et dans la prise de la Bastille, on a donc le 12 juillet, Louis XIV renvoie Necker. Ça va provoquer déjà et puis la colère du peuple, mais qui pour le moment se tient tranquille. Mais en plus, comme il pressent des troubles, alors il se dit il faut quand même que je protège les aristocrates de Versailles contre Paris. Et donc il fait disposer des troupes dans un souci pacifique. Le problème, c'est que le peuple, lui, n'interprète pas de la même façon. Il voit des troupes qui se massent autour de Paris et il dit « le roi va nous attaquer ». Donc quand je commence une action, c'est l'histoire de la flèche tout à l'heure, je ne sais jamais comment ça va être interprété et comment l'action va se finir. Et ça va en arriver à la prise de la Bastille, enfin vous connaissez, puis après la suite de la Révolution. Donc l'histoire, c'est ça. C'est un pullulement de destin, c'est un enchevêtrement d'actions commencées dont on ne sait jamais comment ça va finir, parce que je dois... C'est comme un jeu d'échecs éminemment compliqué. Ce qui fait que, effectivement, les hommes sont bien les acteurs de l'histoire en même temps qu'ils subissent les conditions antérieures et les actions des autres. Et c'est cette dialectique, c'est pour ça que c'est une dialectique, que c'est seulement la raison, quand elle se met à être dialectique et non pas analytique, qui peut comprendre cette réalité historique.
Alors, avant d'en arriver à la conclusion, puisque l'heure va bientôt sonner, le correcteur va passer pour ramasser votre copie, Nathalie Monin. Peut-être on peut définir ce que vous entendez par dialectique, puisque là, ce terme est assez important dans un sujet sur l'histoire.
Alors, pour le comprendre, on explique un mot par un autre, souvent. Donc, une raison analytique, c'est une raison qui découpe, qui va scinder, hein, qui voit dans l'histoire une succession d'événements. Et une raison dialectique, c'est celle qui va prendre en compte des interactions, pas forcément dans une succession temporelle, mais ça peut être dans le même temps où ça peut être... Et donc c'est l'idée que chacune de mes actions intervient sur l'action des autres, conditionne celle des autres, et celle des autres conditionne la mienne. C'est cette interaction constante, la dialectique, entre les individus. Et c'est pourquoi une raison analytique ne peut pas comprendre la réalité dialectique de l'histoire. La raison elle-même doit se faire dialectique et prendre en compte ce que c'est que la réalité humaine, qui est toujours en interaction, mais très, très rapidement, avec l'extérieur, intérieur-extérieur. C'est toujours une interaction éminemment rapide. Alors que si je vois la réalité comme une succession, une juxtaposition de moments, eh bien je n'en saisis pas la réalité. La raison doit donc se faire elle-même dialectique pour saisir cette réalité, parce que cette réalité est elle-même dialectique.
Alors, est-ce que vous concluez sur cette idée-là ou est-ce que vous essayez d'apporter une réponse à la question que pose le sujet? On peut quand même y revenir. Qui fait l'histoire? Est-ce que la conclusion va répondre à cette question?
Alors, maintenant, je suis en mesure de répondre. Ce sont effectivement les hommes qui font l'histoire. Tous les hommes, chacun à son niveau, y participent. Et ce qui fait que nous ne pouvions pas ou que les penseurs ne pouvaient pas répondre à cette question avant, c'est la complexité, c'est-à-dire la réalité dialectique de l'histoire, qui fait que c'était si difficile de pouvoir répondre tout simplement, ce sont les hommes, d'où l'invention, enfin, de mon point de vue, l'invention de la nature, des dieux, de l'esprit pour Hegel.
Alors des visiteurs aux Martiens en passant par un stade de foot, un match de foot et Michel Blanc, il restait une référence que vous n'avez pas encore évoquée, je vous propose de terminer avec ça. C'est Jacques Brel qui chante que finalement les gens ne changent jamais et que quoi qu'il arrive, l'histoire peut-être passe, mais tout reste comme ça.
Dans les campagnes, il y a les filles qui vont chercher l'eau, attirent l'arigot. Les filles font la file gentille et tout en parlant tout haut. Les filles font la file gentille et tout en parlant tout haut du feu et de l'eau. C'est comme ça depuis que le monde tourne, y'a rien à faire pour y changer. C'est comme ça depuis que le monde tourne et vaut mieux pas y toucher. Près des filles, y'a les garçons, les longs, les minces et les gras qui rigolent tout bas. Les noirs, les roses et les blonds qui parlent de leur papa. Les noirs, les roses et les blonds qui parlent de leur papa et les yeux.
Il est 10h50, vous écoutez France Culture, vous êtes sur les nouveaux chemins de la connaissance et c'est l'heure de retrouver, comme tous les jours, le journal de la philosophie. Avec vous, François Nodelman, bonjour.
Bonjour Adèle. La psychanalyse ne se limite pas aux individus, mais elle permet aussi de comprendre le fonctionnement d'une culture ou d'une religion. Elle donne à entendre ses pulsions, ses fantasmes et ses refoulements. Ouria Abdelwahed s'intéresse en psychanalyste aux figures du féminin en islam. C'est le titre de son livre paru aux Presses universitaires de France. Ouria Abdelwahed, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'université de Paris 7, traductrice d'Adonis et psychanalyste, je le disais. Vous déclinez dans ce livre différentes figures de femmes plutôt maltraitées ou mélancoliques ou cruelles qui, dites-vous, signalent le lien complexe de l'islam à l'inquiétante étrangeté du sexe féminin. Est-ce que vous pourriez me dire ce que vous entendez par là ?
Effectivement, quand on travaille sur l'islam, d'abord c'est un sujet extrêmement complexe qui a été travaillé soit par des sociologues féministes, donc dont Fatema Bernissi, ou bien des médecins féministes aussi comme Nawal Saadawi en Égypte, mais jamais par des femmes psychanalystes. Effectivement, quand on travaille sur le féminin en islam, d'abord pour une femme, on se place de point de vue de notre place de femme. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, il y a effectivement différentes figures. Il n'y a pas qu'une seule. Il y a la figure de la femme maltraitée, il y a la masochiste, il y a la cruelle, il y a etc.
Oui, enfin, l'esclave.
Oui. Donc, ce n'est pas une seule figure, mais ce sont des figures bien complexes. Alors qu'on a tendance à les simplifier. Je donne par exemple des exemples. Quand on parle de Khadija, l'épouse mère du prophète, effectivement, tout le monde parle de son dévouement.
Oui, son absence de sexualité.
Son absence de sexualité, mais on oublie les répercussions psychiques, c'est là, les soubassements pulsionnels. Donc, les répercussions psychiques sur les filles donc, de Khadija, qui sont mortes quand même jeunes. Fatima, dont je parle ici, quand même, qui était mélancolique. Aujourd'hui même, on pourrait même dire anorexique, parce qu'il y a absence de ménorrhée, il y a absence donc de règles, elle ne mangeait pas, etc. Et donc, ce sont vraiment des questions assez poignante, quelle est la place de la femme? Quelle a été la place de la femme au moment de la fondation islamique? Et c'est là où on se rend compte effectivement de la dimension du sacrifice demandé au féminin. La complexité aussi, c'est que l'Arabie était la terre des déesses mères. Et donc, la fondation islamique, donc le renouement ou le renouage avec le judaïsme a nécessité quand même un sacrifice du féminin. Donc, voilà ce que je peux dire de cette complexité du féminin.
Sur la méthode, alors, est-ce que vous tentez de trouver, quelque sorte, à travers ces figures, des structures et plus généralement, est-ce que les vérités que vous déceler sont des vérités de culture. C'est-à-dire, finalement, la question que je vous pose, c'est le rapport de la psychanalyse à l'analyse des cultures, c'est-à-dire ses ambitions. Freud, déjà, avait cette ambition-là dans certains de ses textes, Totem et Tabou, notamment, ou L'avenir d'une illusion, à propos de la religion. Mais aussi, peut-être, y a-t-il des limites à cette interprétation? Enfin, quelle est votre ambition psychanalytique ou métapsychologique quand vous étudiez ces figures, puisque vous n'avez pas affaire à des cas singuliers, mais à presque des archétypes?
Alors, quelle est mon ambition? Je dirais que je ne suis pas partie d'abord d'une ambition. Ma propre ambition, ça a été d'abord d'essayer de comprendre, vraiment d'essayer de comprendre, en tant qu'analyste, ce que ces femmes-là, que je reçois en tant qu'analyste, essayent de comprendre ce qu'elles me disent. Et effectivement, donc, je viens de recevoir le livre de Janine Alcunian, de la cure...
À l'écriture.
À l'écriture, un très très beau livre, donc je ne fais que le parcourir. Et elle parle à un moment donné, donc tout au début de son livre, de sociologiser une subjectivité. Et je trouvais que c'était vraiment une phrase, comme toutes les phrases de Janine Alcunian, qui ont vraiment leur poids, extrêmement parlante, parce que quand on a affaire à des femmes de cette culture, donc la culture qui est la mienne, l'arabo-musulmane, on est confronté, en tant qu'analyste, à ce que j'ai appelé vraiment l'inquiétante étrangeté. Quand ma collègue psychanalyste française me dit, quand je les écoute, je ne comprends pas, et moi j'ai l'impression que je ne comprends que trop. Oui, donc on est vraiment dans quelque chose de l'ordre du familier, et donc pourquoi cette figure de l'inquiétante étrangeté sort en tant qu'analyste dans la cure avec ces femmes donc, de ma culture.
Donc si je vous entends
donc,
bien, vous...
Donc ce ne sont pas, vraiment, ce n'est pas une ambition, dans le sens où tracer des archétypes, des modèles, etc., mais c'est de travailler sur ce qui a été mis de côté par les études modernes, hein, ce qui a été vraiment, quand on parle de la dimension symbolique, donc là on est très lacanien, et Lacan est vraiment très très bienvenu dans le monde arabo-musulman, le nom du père, là vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire de parler du nom du père, mais quand on parle des soubassements pulsionnels, c'est-à-dire donc cette asexuation de la figure de Khadija, l'oubli que Fatima est morte, battue, mélancolique, la cruelle Hind qui entaille le foie de l'oncle du prophète. Ouais. Et on oublie vraiment dans un espèce comme ça de refoulement massif ou de clivage, on oublie qu'elle a été la mère du premier monarque de l'islam. Donc voilà, ce sont vraiment... Alors, c'est une ambition de traduire.
Si je vous entends bien, quand même, il y a une volonté de sociologiser, vous l'avez dit, de sociologiser, d'historiciser aussi la vie psychique des sujets que vous recevez, de les inscrire dans une histoire et qui est quand même une histoire dont vous dites que l'islam de l'Arabie a livré une lutte drastique contre les femmes et le pouvoir du féminin. Est-ce que vous cherchez à inscrire ces questions-là dans un ordre symbolique ou vous réintégrez en quelque sorte le sujet dans sa communauté ou au contraire, est-ce que vous favorisez une émancipation par rapport à cette détermination historique, à ces conditionnements sociaux?
D'abord, je les écoute en tant que femme, parce que là, vous m'interrogez sur ma pratique analytique.
Oui.
Donc, je les écoute en tant que femme, et ce qui vient quand même interroger à chaque fois la femme analyste, donc la femme analyste, c'est toujours cet enchevêtrement de l'individuel et du collectif. À savoir que lorsqu'on reçoit un patient ou une patiente, on essaie de construire avec lui ou avec elle sa propre histoire. Or, quand on travaille avec des femmes de cette culture-là, donc je prends toujours l'exemple des femmes, puisque c'est figure du féminin en islam et chez les femmes, hein, on va dire. Donc à ce moment-là, on se rend compte que construire ce travail de construction avec les patientes bute sur ce qui n'a pas encore été dépassé culturellement. Et c'est pour ça que j'ouvre le livre par cette question de l'envie du pénis. Est-ce que vraiment on est dans quelque chose de l'ordre du fantasmatique, l'envie du pénis, la petite fille qui veut faire pipi debout, ou est-ce que vraiment le pénis a un enjeu vital, à savoir lorsqu'on est fille, ben on est livré quand même à quelque chose d'extrêmement dur, hein. De l'ordre de l'errance, on perd l'héritage du père. Et donc, c'est pour ça que la question de Fatima est une question aussi de fille qui réclame l'héritage du père.
En tout cas, votre livre décline de nombreuses figures de ce féminin en islam et aborde des questions aussi très politiques, sociales, culturelles, comme le voile, la sexualisation du visage. On n'a pas le temps de tout traiter, bien sûr, mais je renvoie donc à ces figures du féminin en islam parues aux presses universitaires de France par Ouria Abdelwahed. Vous pouvez retrouver et podcaster le journal de la philosophie sur le site de franceculture.fr.
Merci François et merci à votre invité. Les nouveaux chemins touchent à leur fin. Mais on se retrouve demain évidemment pour la suite de cette semaine spéciale Bac Philo. Demain, je recevrai le professeur de philosophie Philippe Couette qui se posera la question suivante. La morale est-elle nécessaire à la vie des hommes en société ? Si vous voulez réécouter cette émission, c'est possible en vous rendant sur le site internet franceculture.fr à la page des Nouveaux Chemins. Vous trouverez également toutes les indications bibliographiques concernant l'émission de ce jour et toutes les indications musicales. Et vous pourrez également télécharger, podcaster cette émission afin de l'installer dans votre ordinateur ou sur votre lecteur MP3 pour pouvoir l'écouter où vous voulez, quand vous voulez. France Culture, il est 10h59. Dans un instant, vous retrouverez Florian Delorme pour son émission Culture Monde.